moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la direction, c'est essayer que chaque personne qui est en face de moi donne sa musique à elle, et moi je la prends et je la mélange avec les autres. C'est comme ça qu'à mon avis, les choses les plus magiques peuvent sortir. C'est quand l'émotion de chacun s'additionne, en fait. Je pense que le public s'ennuie à partir du moment où il ne comprend pas. Donc en fait, toute ma quête, c'est d'essayer de faire que les choses soient sensibles et compréhensibles.
Le Grand Atelier sur France Inter.
En France, 4% des concerts ou des opéras sont dirigés par des femmes. 4% seulement. Ce constat ahurissant met notre invité en colère. Il faut dire que la chef Laurence Équidbé a sinon le sang chaud, du moins l'esprit frondeur, c'est de naissance. Un esprit batailleur aussi qui lui a permis dans les années 90 de trouver des subventions pour imposer son chœur, Accentus. Puis son orchestre, Insula Orchestra, en résidence depuis un an à la Scène Musicale, dans l'Ouest parisien. Pour l'avoir dirigée ces jours-ci, rendez-vous à l'Opéra Comique, à Paris, où elle nous permet de découvrir un opéra méconnu de Charles Gounod, La Nonne Sanglante. Bonjour Laurence Équidbé.
Bonjour.
L'esprit frondeur, c'est un des traits de vos caractères, paraît-il.
Oui, tout à fait. En fait, j'ai toujours été frondeuse depuis mon plus jeune âge, je crois. Et ça ne s'est pas arrangé dans ma jeunesse, parce que j'étais aussi dans un pensionnat où c'était assez strict. On était un peu souvent en rang et c'était un pensionnat de jeunes filles, de 300 jeunes filles, en pleine adolescence. Donc c'était un peu turbulent et moi j'adorais être hors la loi en quelque sorte.
Et ça se manifestait comment ?
J'étais une sorte de terreur pour les surveillantes, justement. J'allais fumer dans les bois, je respectais pas les règles. J'aimais pas être contrainte, en fait. J'ai lu beaucoup de livres sous la couette, parce qu'on devait avoir des livres signés par le censeur, par exemple. Et du coup, ça m'amusait de lire des livres non signés, évidemment, etc. etc.
Vous avez des souvenirs de lecture, justement, interdites ?
Oui, je me rappelle justement en sixième avoir lu Au nom de tous les miens. C'est vrai que c'est un livre assez dur, je dois dire, pour une enfant de sixième.
Martin Gray.
Voilà, Martin Gray, absolument. Par exemple, ce livre-là.
Oui, et vous faisiez de la guitare folk aussi pour chanter avec vos amis.
Absolument. Alors bon, j'avais une guitare, j'en faisais beaucoup, alors à la fois classique mais surtout folk, et on chantait toutes les chansons, le cuirassé de Potemkin, les chansons de Moustaki, les chansons de Barbara, enfin toute la pop, la variété de l'époque, et puis du coup j'entraînais un peu tout le dortoir jusqu'à des heures interdites.
Vous aimiez chanter déjà ?
Oui, je chantais beaucoup. Je faisais beaucoup de musique en fait, parce que c'était une forme de jardin secret, notamment pour échapper à la règle commune. Et tout d'un coup, on avait le droit de sortir. Madame, je vais à mon cours de piano. Et là, on était seul dans ce grand parc, parce que c'était dans un assez joli parc à Saint-Germain-en-Laye. Et tout d'un coup, c'était la liberté, quoi.
C'était quoi comme institution ?
C'était la Légion d'honneur. Ça calme.
Bon, bah, ça calme.
Non, mais maintenant, je dois dire que c'est un excellent établissement, avec beaucoup de musique notamment, et c'est grâce à ça aussi que j'ai pu en faire beaucoup. J'ai fait du piano, de la flûte traversière, du chant, de la guitare, enfin, c'était non-stop quoi, pour moi la musique là-bas.
Eh bien, avec vous, dans votre grand atelier, Laurence Équidbé, on va parler de musique, on va parler de la voix, on va parler des femmes dans le domaine culturel. Nous recevrons Claire Chazal, qui est une passionnée de musique, et je crois que vous aimez échanger régulièrement avec elle. Nous recevrons Muriel Couton de la SACD, sensible à la place des femmes dans la musique. Le metteur en scène David Bobet, qui met en scène La Nonne Sanglante avec vous à la baguette. Il est avec nous, David Bobet, bonjour.
Bonjour.
Il y a un chanteur qui va venir en deuxième partie, c'est le ténor Stanislas de Barberac. Et nous ferons de la magie peut-être à la radio avec un de ses grands représentants, c'est Raphaël Navarro, bonjour.
Bonjour.
On a là, dans vos choix, Laurence Équidbé, une bonne image de votre éclectisme, il me semble.
Oui, écoutez, moi j'aime beaucoup que les arts règnent les uns avec les autres. Et je pense que dans la version moderne, en tout cas 21e siècle, la musique peut régner avec l'architecture, la peinture, avec la magie, avec le cirque, avec les arts plastiques, avec la mise en scène évidemment, mais version de notre époque. Et c'est cette quête que j'ai souvent. Alors j'ai des projets de concerts traditionnels, je veux dire, mais que j'aime beaucoup aussi. Mais en tout cas, je pense que cet oxygène qu'on peut trouver dans cette synergie artistique est fondamentale aujourd'hui.
Vous aimez les voix, vous aimez les chanteuses, les voix de chanteuses, j'ai remarqué.
Oui.
Particulièrement.
Mais de chanteurs aussi. Fin...
Oui, mais dans la chanson populaire, il me semble que vos références sont assez féminines.
Ah oui, mais non, parce que, en fait, c'est parce que je cite les deux et que du coup, ça vous paraît trop, les femmes. Il paraît qu'au-delà de 30%, on a l'impression qu'il y en a plus.
Nous, on aimerait écouter Véronique Sanson, Amoureuse. Est-ce que ça vous ferait plaisir?
Ah mais très, très, très.
Le premier disque de Véronique Sanson,
absolument,
produit par Michel Berger.
interdit. Et je sens la fièvre qui me mord, sans que j'aie l'ombre d'un remords. Je ne veux pas qu'arrive le soleil. Quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Dans sa vie, je prie pour que le destin m'en sorte. Je prie pour que le diable m'emporte. Et l'angoisse me montre son visage. À parler son langage, mais quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin et je me demande si cet amour. Je suis loin de lui, quand je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma terre, et je ne suis plus d'ici, oh, je ne suis plus d'ici, je ressens la pluie d'une autre planète, d'une autre planète.
Alors il faut vous dire que dans le grand atelier de Laurence Équilibé, ce dimanche après-midi, on est en train de se battre. Pourquoi on se bat ? Parce qu'on veut être le meilleur imitateur de Véronique Sanson. Vous, Laurence, vous seriez interprétée.
Moi, je l'ai beaucoup imitée quand j'étais adolescente. Je jouais au piano avec un micro, tout ça.
Ah, c'était plus qu'imiter, vous viviez ces chansons.
Non, mais la chanson que j'en chantais le plus, c'est Comme je l'imagine. Du coup, avec David, je savais pas qu'il imitait aussi Sanson. Donc par contre, on va s'entraîner un petit duo.
C'est ça, se prévoit un duo. Ouais.
Dans les loges de l'opéra comique. Vous êtes tombée amoureuse, vous, de la musique, Laurence Équilibé, vous diriez ça ?
Oui, en quelque sorte, il y a eu une, en tout cas une forme de passion subite parce que mes parents étaient mélomanes, mais j'ai pas réclamé la musique tellement quand j'étais enfant. Je les accompagnais à la chorale, tout ça, mais bon, j'aimais bien, sans plus. Et puis d'un coup, effectivement, arrivé à 10 ans dans cette pension, ils m'ont inscrite en cours de musique. Et là, ça a été une forme de déclenchement incroyable. Donc, on peut parler d'une forme de passion amoureuse. Ouais.
Qu'est-ce qui a déclenché ? Vous vous souvenez peut-être d'une œuvre ? Qui aurait déclenché ça, ou c'est l'accumulation de cette soudaine découverte?
Je crois qu'en tout cas, j'ai eu une très bonne prof de piano là-bas, qui s'appelait Danielle de Fleurieu, qui nous a quittés maintenant, mais elle m'avait donné notamment du Bach, du Chopin, et ça a été une forme de... Je me rappelle de cette valse. J'avais commencé par ça, je sais plus quel numéro de valse, et cette espèce de forme de profondeur, un peu austère d'ailleurs, dans cette valse, qui m'a tout de suite incroyablement attirée. Et voilà, et c'est parti après. Bon, j'ai pas tout raconté toute ma vie, mais j'ai eu un prof de flûte aussi formidable. J'ai travaillé des pièces qui m'ont épanouie, qui m'ont enrichie, qui m'ont approfondie. C'est parti comme ça.
On aurait pu avoir une Laurence Équilbé pianiste ou flûtiste traversière. Non, vous dites, j'étais peut-être pas assez talentueuse.
C'est pas ça. Je pense que pour être vraiment récitaliste, je crois qu'il faut commencer un peu plus tôt. Moi, j'ai commencé à 10 ans. Je pense que c'est un peu tard pour faire une carrière instrumentale. Mais cela dit, c'est parce que aussi j'avais la passion aussi pour l'analyse de contexte. Alors, je dis pas que les instrumentistes le font pas, mais il y a un temps, il faut du temps. Instrumentiste, vous devez passer au moins 6-7 heures, en tout cas dans l'apprentissage par jour. Moi, j'aimais bien aussi étudier le contexte d'une œuvre, son analyse profonde, l'harmonie. J'ai fait 10 ans d'harmonie, je fais beaucoup d'analyses musicales, etc., etc. C'est peut-être un temps aussi que les instrumentistes ne peuvent pas prendre.
Et puis, c'est votre prof de piano qui vous dit « va vers le cours d'écriture ».
Oui, oui, oui. Bah oui, c'est elle qui me conseille absolument de suivre des cours d'écriture et ce que j'ai fait. Et ça a été aussi la découverte d'un monde. Bon, les instrumentistes en font aussi d'écriture, mais peut-être pas de façon aussi poussée.
Qu'est-ce que c'est d'ailleurs au juste un cours d'écriture ?
Bah, on apprend ce qu'on appelle l'harmonie et le contrepoint. Voilà, le contrepoint, pour résumer, ce serait plutôt l'écriture horizontale de la musique, les règles horizontales, et l'harmonie serait plutôt les règles verticales. Voilà, si on peut résumer comme ça. Et tout ça s'appelle l'écriture.
On a parlé de votre découverte de la musique. Est-ce qu'il y a la même chose pour la voix ? Un événement ?
Ben, en fait, j'ai fait un petit cours de maîtrise, comme font les enfants, maintenant, heureusement, beaucoup plus dans notre pays maintenant. Et je pense que ça déclenche aussi beaucoup à la fois l'amour de la musique, mais évidemment l'amour de la voix, parce qu'il y a cet instrument qui en soi, ce travail corporel qui est vraiment inimitable. Enfin, je pense qu'on peut peut-être ressentir ça aussi quand on fait de la danse, là où un art résonne dans le corps, vous voyez, donc cette espèce d'épanouissement qu'on peut ressentir, cette vibration particulière. Et du coup, je pense que c'est indélébile pour l'amour pour la voix. En particulier, en tout cas.
Alors vous êtes chef de chœur et chef d'orchestre, mais vous aimez aussi les voix d'une manière générale. Une voix parlée peut vous émouvoir.
Ah ben oui, tout à fait. Il y a des grandes voix parlées. Je suis très amie avec le comédien, par exemple, André Wilms, qui a une voix inimitable.
Une voix grave.
Voilà, on a célébré récemment Michael Lonsdale, qui a une voix aussi parlée, fantastique. Vous parliez en arrivant de Macha Béranger. Bah voilà,
ah oui, on parlait de Macha Béranger.
Une voix de radio.
Je crois qu'il y a une voix qui est la voix d'une pianiste qui a disparu il y a quelques années, qu'on aime évidemment beaucoup. C'est Brigitte Enguerrer. Et je crois que cette voix vous touche. On va l'écouter, Brigitte Enguerrer.
À chaque fois qu'on donne aux gens la possibilité de découvrir ce qu'est la musique classique, ce qu'est cette grande musique écrite par de grands hommes, de grands penseurs et de grands êtres humains, je pense qu'à chaque fois qu'on donne l'occasion à tous les gens d'entendre ça, ils n'en ressortent jamais indemnes. Ils ressortent toujours avec une émotion profonde et ils disent toujours « Ah, mais quelle découverte, je ne savais pas que c'était ça ». Je pense que ce qui est dommage, c'est que on ne donne pas la possibilité à la plupart des gens de découvrir cela. Il m'est arrivé de faire des concerts pour des écoles, les écoles où mes enfants sont allés, où j'ai spontanément proposé moi-même de venir faire des concerts pour les petits-enfants. Je me souviens que des petits-enfants de 6, 7 ans, 6 mois après ou 7 mois après, dans la rue, me reconnaissaient tellement ils avaient été frappés par cette heure de piano, de musique, d'émotion, et ça les a touchés tout de suite.
Voilà, Brigitte Enguerrer disparue il y a 6 ans avec du sourire. Sourire peut-être dans la voix, non, Laurence Équilbé ?
Oui, c'est très touchant d'entendre cette voix. Et Brigitte, en fait, moi, je connais pas mal d'enregistrements d'elle de voix. Son physique a pu évoluer au cours des ans, mais sa voix est restée intacte, malgré le fait qu'elle fumait énormément. Et j'aime beaucoup cet optimisme qu'elle a dans la voix. Ouais.
Et puis, elle parle d'un sujet qui vous est cher, c'est la transmission.
Oui, très important.
S'ouvrir aux autres, aux jeunes, aux enfants.
La transmission et aussi ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'inclusion, c'est-à-dire... transmettre, c'est plus un geste pédagogique pour des gens qui vont éventuellement faire votre métier, mais c'est aussi passer des émotions, passer des sensations, des sentiments, de la profondeur, créer du lien avec des gens qui n'auraient pas forcément été dans votre sillage. Voilà, et ça, c'est notre recherche aussi dans le projet à la fois d'Accentus et d'Insula Orchestra sur la scène musicale, notamment. Cette ouverture, voilà, je dirais, exigence, mais ouverture.
Ah oui, il faut se battre pour ça, pour ouvrir la musique classique à d'autres publics. On aura l'occasion d'en parler dans votre grand atelier, Laurence Équilbé. Je voudrais que vous me présentiez ce monsieur en chemise blanche
voilà.
Et à queue de cheval à côté de vous, Raphaël Navarro.
Raphaël Navarro, qui a donc fondé avec Clément de Bailleul et Valentine Losso, qui s'appelle 1420, qui est un mouvement nouveau qu'on peut appeler la magie nouvelle. Mmh. Voilà, c'est d'ailleurs le terme qu'ils ont inventé.
Vous êtes allé voir plusieurs spectacles ?
Oui, oui, ça fait longtemps que je les suis, que je connais leur travail et que j'aime énormément leur recherche, qui est à la fois une recherche technologique, mais aussi poétique. Et j'aime beaucoup, moi, quand la technologie se mêle d'art, parce que, non pas que je dis pas que la technologie fasse avancer les choses, mais je pense qu'on a fait un peu le tour de l'esthétique avec trois poufs et un tapis, et que aujourd'hui, si on veut avancer dans l'esthétique et dans le style, et dans la proposition sensible, forcément, il y a une avancée technologique.
Là, je reconnais là l'amoureuse du romantisme, parce que les romantiques étaient en avance, ils aimaient tout ce qui était mécanique, tout ce qui était nouveau.
Ah ben, ils étaient fascinés par les automates, par le risque, c'est cette histoire de cette forme de risque aussi. Donc, c'est, je pense, que ce que développe aussi la compagnie 1420.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire un des spectacles récents de votre compagnie, Raphaël Navarro, pour quelqu'un qui ne sait pas ce que signifie la magie nouvelle ?
Alors, on a plusieurs spectacles qui jouent d'ailleurs en ce moment même. On a la dernière aujourd'hui du festival au Rond-Point. Là, on était un mois avec trois spectacles différents. Un des spectacles qui joue encore en ce moment, peut-être c'est ce qui a le plus d'intérêt à raconter là, qui serait Les Limbes d'Étienne Saglio. Donc c'est pas la compagnie 1420, mais enfin j'ai coécrit ce spectacle-là et Valentine Losso était dans l'écriture aussi. Une des séquences peut-être qui marque souvent les gens dans ce spectacle-là, c'est qu'il y a un travail avec une espèce de bâche de plastique qui devient une forme de méduse, presque de fantôme, et qui se met à voler à la fois autour du personnage et dans la salle, à frôler les spectateurs. Et puis ça engendre un combat avec le personnage principal. La méduse se divise en plusieurs petites entités et finissent par gagner, manger son visage et lui rentrer dans le ventre.
C'est vrai que ça, ce sont des images qu'on n'oublie pas, Laurence Equilbé.
Ah ben, c'est fantastique. Moi, j'ai vu notamment au Rond-Point, effectivement, Nous, Rêveurs Définitifs, c'est ça, hein, qui était un spectacle, un cabaret magique. Et il y avait des numéros absolument saisissants, de choses. Effectivement, ce numéro où cette pieuvre atteint cet homme et finalement, il finit par avoir un personnage de vieil homme d'un coup. Enfin, c'est très saisissant. On appelle ça des numéros, mais en tout cas des séquences tout à fait bouleversantes, parfois aussi très drôles. Et c'est ce mélange d'atmosphère qui est fantastique. C'est très, très virtuose et à la fois très poétique.
On a vu aussi Wade in the Water sur une musique d'Ibrahim Malouf.
Oui, tout à fait.
Alors là, on voit par exemple quelqu'un qui s'allonge sur un lit et qui disparaît dans le matelas. Quelqu'un qui peut s'effacer, quelqu'un qui peut s'envoler ou se dissiper comme un nuage. Et ben, à chaque fois, on a à peu près 7 ans ou 8 ans.
Bah, c'est très gentil. L'enjeu, c'est de s'appuyer sur le langage de la magie de façon très large, on va dire, c'est-à-dire l'illusion, mais même de la magie en général, l'émotion magique. Et donc, on s'appuie beaucoup sur les recherches ethnologiques, anthropologiques. On travaille avec les sciences cognitives, avec des philosophes, etc., pour comprendre comment fonctionne la sensation du détournement du réel, du dépassement du réel. C'est souvent quelque chose de très agréable chez un humain, qu'il soit un enfant ou qu'il ait la sensation de redevenir quelque part un enfant, parce que il y a cette idée de redécouvrir finalement les règles du monde, de se dire, ah, mais c'est peut-être possible finalement, peut-être qu'on peut voler, peut-être qu'on peut disparaître, etc.
Mais ça nous fait du bien, c'est vrai.
Oui, et ça devient un langage artistique, voilà, vraiment, on essaie de le sortir un petit peu, de faire quelque chose de différent de ce que d'autres pratiques de magie pouvaient se faire pour des enjeux rituels, religieux ou de divertissement, et puis on en fait vraiment un langage dramaturgique.
Vous avez travaillé avec l'écrivain Michel Butor, avec le couturier Jean-Paul Gaultier, avec le chorégraphe Philippe de Coufflet. J'imagine, Laurence Equilbé, que vous avez envie de vous associer à cette créativité de Raphaël Navarro.
Oui, en fait, tout à fait, c'est ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il travaille beaucoup avec la pesanteur, cette sensation, un peu ce point de suspension, qui est d'ailleurs aussi une des recherches du chorégraphe circassien
Johan Bourgeois,
avec qui je vais faire des fragments du Requiem de Mozart. Et avec 1420, nous allons l'année prochaine donner le Freischütz de Weber, qui est un opéra donc aussi fantastique, qui parle beaucoup de magie, puisqu'il s'agit de balles enchantées. Donc nous travaillons actuellement à ce projet qui va durer 2 saisons, qui va commencer à Caen, passant par Aix, par aussi l'Allemagne, le Duisbourg, et qui arrivera au Théâtre des Champs-Élysées dans la saison 19-20. Donc ça, on a un gros travail de dramaturgique ensemble. Mais
ce sera un travail ensemble alors ?
En tout cas, la vision globale, après c'est eux qui vont travailler leur propre dramaturgie magique autour de cet opéra. En tout cas, j'ai vu beaucoup de leur travail depuis longtemps, et puis récemment le Faust à la Comédie-Française. Voilà, où il y avait aussi beaucoup de magie nouvelle.
Oui.
Et c'est cette recherche-là qui m'intéresse beaucoup avec eux.
David Bobet, vous avez envie, vous, de faire appel de temps en temps à la magie et à ce savoir-faire-là dans vos spectacles, vous, metteur en scène?
Oh, je me l'interdis pas. Et puis, on est voisins avec Raphaël Navarro, on est rouennais tous les deux. Donc oui, ça nous arrive de discuter régulièrement, mais c'est vrai que leurs spectacles sont particulièrement saisissants.
Qu'est-ce que vous avez comme souvenir et comme image en tête, vous?
Ce que j'ai comme image en tête, c'est pas forcément les grands effets, parce qu'ils sont pas forcément que là, mais c'est parfois juste un petit objet avec un petit nuage qui vole dans une petite cloche de verre. C'est une danseuse qui se met à évoluer et qui d'un coup se met à quitter le sol, mais de quelques centimètres. Et ça crée des sensations de spectateur absolument incroyables.
Il a raison, David Bobet et Raphaël Navarro, c'est de dire que vous ne cherchez pas de spectaculaire, mais plutôt le détail intime qui nous fait décoller.
Oui, tout à fait. Mais je crois même que c'est une des choses, entre guillemets, peut-être qui nous rejoint là, c'est un peu le hasard, mais tous les trois, j'ai l'impression que c'est ce que fait aussi David dans son travail. Et c'est clairement, comme disait Laurence, on se connaît depuis longtemps et on suivait nos travaux respectifs depuis de nombreuses années. Et moi, c'est ce que je retrouve beaucoup aussi dans sa façon de diriger. C'est justement, il y a une recherche de la subtilité, il y a une recherche de représenter l'invisible quelque part à travers la musique, mais particulièrement, je trouve, dans le travail de Laurence, qui est très très présent. Et forcément, moi, en tant que magicien, c'est ce que j'essaye de faire, de représenter.
C'est la première fois qu'on dit à Laurence Equilibé qu'elle est magicienne.
Merci.
Ça vous convient comme
écoutez,
ressenti?
Oui, oui, oui. J'aime bien parce que c'est vrai que, notamment là, avec cet opéra que nous donnons avec David Bobet, La Nonne Sanglante, c'est une grande, grande forme. Donc, je suis contente de voir que le souci du détail est perceptible par le public.
On va remercier Raphaël Navarro parce qu'il doit aller chez lui très vite. On va dire la vérité, vous avez une grosse fuite d'eau.
Exactement.
Et à ça, la magie ne peut rien.
Oui, mais c'est l'orage qui était attention, c'est
oui.
La foudre qui est responsable.
Je tente de développer mes pouvoirs pour agir sur les éléments, mais j'en suis pas encore.
Bon, nagez bien, en tout cas, et bonne suite à vous. Merci Raphaël Navarro. Vous avez évoqué La Nonne Sanglante, Laurence Equilibé et David Bobet. J'ai envie qu'on écoute un petit extrait de l'ouverture. L'ouverture fait 9 minutes. Elle est très très belle. Et voici ce que j'aimerais que nous entendions dans votre grand atelier, Laurence Equilibé. J'aime bien ce moment-là de l'ouverture, Laurence Equilibé, parce que je le trouve plein de suspense, ce moment. Je le trouve annonciateur d'aventures à venir. Est-ce que je fantasme un peu ce qui se passe à ce moment-là?
Non, tout à fait. C'est une couleur très particulière que Gounod maîtrise à ce moment-là de sa carrière. Il a 36 ans, je crois. Très, très bien tout ce qui est harmonique. L'harmonie, on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire des accords diminués. Alors, c'est des accords un peu étranges, fantomatiques, comme ça, et qu'il peut écrire beaucoup par chromatisme, c'est-à-dire des demi-tons. Donc, c'est très, très, très impressionnant, dramatique. Donc, ça, c'est une patte qu'il maîtrise très, très bien. Et aussi, il imite un peu Weber, qui est son compagnon aussi à ce moment-là, enfin son compagnon de vie, pas amoureuse, mais qui est dans un autre pays, et ils ont des œuvres un peu similaires. À ce moment-là, Weber a déjà écrit le Freischütz, et c'est des sonorités qui sont très populaires, avec les clarinettes, bassons dans le grave, qui créent une forme de sonorité un peu bizarre, étrange, parce qu'on n'utilisait pas ces instruments dans le très très grave, avec des timbales pianissimo, et c'est très efficace. Et ça, cette musique-là, elle va annoncer notamment la marche des morts, parce qu'il y a des morts vivants dans cette œuvre. Et donc, c'est assez extraordinaire. Et vous avez pu entendre des coulis-coulis comme ça de flûte et de clarinette qui montent dans l'aigu avec des motifs parallèles comme ça, très, très étranges. C'est presque une musique de film à ce moment-là.
On est en pleine période romantique?
Ah, bah oui, enfin, on est en plein romantisme. Le pré-romantisme est passé, notamment justement avec Weber et Beethoven. Et là, on est en plein dans cette période pratiquement. Dans la littérature, ça donne la littérature frénétique. Il y a eu tout ce mouvement gothique. Enfin, vraiment, on est pratiquement dans le post-romantisme.
David Bobet, ça raconte quoi, La Nonne Sanglante? Est-ce que vous arriveriez à faire ça en une minute?
C'est l'histoire du fantôme d'une bonne sœur qui court après son amant qui l'a tué pour se venger et qui, pour y arriver, va séduire le fils de celui-ci et le pousser à tuer son propre père.
C'est bien résumé, bravo.
Ça n'est pas une tragédie totale. Ça ne se termine pas comme Roméo et Juliette.
Non, et pourtant ça commence absolument comme Roméo et Juliette. Avec deux familles, deux clans, les Ludorf, les Moldaves.
De la haine.
Deux pères qui se détestent, un prêtre autoritaire qui arrive, qui sépare tout le monde. Et l'histoire d'amour entre les deux enfants de ces familles, dont l'histoire est le nœud de la tragédie. Avec cette chose très shakespearienne d'un monde, le monde des pères et des prêtres qui est en train de mourir, hein, le monde de la féodalité. Et puis le nouveau monde qui tarde à arriver dans cette espèce d'entre-deux est un monde en crise, et cette crise fait naître les monstres, nos peurs qui prennent la forme, là en l'occurrence, d'une nonne sanglante.
C'est totalement excitant pour un metteur en scène, cette œuvre.
C'est absolument génial. Mettre en scène comme ça une zombie walk, un banquet qu'on sent pouvoir se terminer très très mal, un fantôme, mettre en scène un fantôme, enfin, c'est assez passionnant, oui.
La nonne sanglante. Comment êtes-vous venu à cet opéra si méconnu de Gounod, Laurence Équilibé? C'est votre projet que vous portez au départ?
En fait, c'est né d'une conversation avec Olivier Monteilli, où on se voit souvent pour...
Le directeur de l'Opéra Comique.
Voilà, qui est un de mes amis, parce qu'il a été mon premier administrateur, c'était dans les années 90.
Du cœur Accentus.
Voilà, donc c'est avec lui qu'on a commencé toute cette aventure. Et donc, souvent, on parlait de titres comme ça. Il fallait chercher des titres qui puissent être en cohérence avec sa ligne éditoriale à l'Opéra Comique et avec mes désirs à moi.
Oui, il a une volonté de faire découvrir des œuvres.
Hein. Et d'être aussi dans le répertoire possible par Insulo Orchestra, notamment, qui est coproducteur de ce projet. Et donc, on est arrivé à cet opéra de nonne sanglante. Moi, ça m'intéressait beaucoup d'explorer aussi le style gothique, qui est une esthétique de l'inachevé, cette recherche complétée par l'imagination, cette recherche, cette tension dans l'intrigue entre le piège, la prison, et puis aussi cette lecture un peu psychanalytique du livret que j'ai pu mener avec David et aussi Anaël Lebovitz-Kénéen, qui nous a beaucoup aidés, pour donner aussi une lecture deuxième degré de ce livret qui sinon pourrait paraître un peu comme un film d'horreur, qui moi, ça m'intéresse pas tellement les films d'horreur. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on raconte à travers cette histoire. C'est pratiquement un roman initiatique, en fait.
On vous a suivi il y a quelques jours, Laurence Équilibé, à la scène musicale. Là, vous êtes en résidence depuis avril 2017. C'est Vinciane Lomonier qui est venue suivre vos dernières répétitions dans ce complexe musical de l'Ouest parisien. Elle a rencontré vos musiciens, elle a rencontré les chanteurs solistes, une star de la musique, Michael Spice.
Ouais, c'est ça.
Comme ça qu'on prononce.
Oui, absolument.
Vanina Santoni, Jody DeVos. Mais surtout ce jour-là, la répétition était ouverte à deux classes, école primaire et collège. Les élèves avaient un casque sur les oreilles et ils écoutaient les commentaires en direct d'un musicologue. Et c'est vous qui les accueillez.
Alors d'abord, on accueille les enfants. Bienvenue. Voilà. Donc les enfants... On va faire une répétition qui s'appelle Une Italienne, et c'est la rencontre entre les solistes de l'opéra et l'orchestre. La première rencontre. On a tous répété chacun de notre côté, et pour la première fois, on se rencontre. Voilà, les amis, on va prendre directement le numéro 12, s'il vous plaît.
Arthur est le page de Rodolphe, donc le protagoniste de notre opéra. C'est le petit grain d'espoir qu'il y a un peu dans cet univers très sombre où tout le monde se nécrose presque de l'intérieur par ce noir qui nous entoure. Et Arthur, voilà, c'est le petit personnage un peu lumineux qui essaie de redonner de l'espoir, qui croit en l'amour.
Le rôle de Rodolphe, c'est vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup de passion. Et aussi la fragilité de caractère. Mais le rôle, c'est fantastique parce que je suis réalité ou un rêve. Je suis fou ou non? C'est parfait pour moi parce que je suis un petit peu fou.
On a de très belles mélodies. J'aime beaucoup les ensembles qui sont assez puissants aussi, extrêmement riches dans les harmonies et dans les couleurs. La musique est très théâtrale. Il y a déjà des thèmes qui restent dans la tête qui sont magnifiques.
Alors Vanina, vous, vous êtes Agnès.
Dans cette configuration très patriarcale, c'est pour moi une jeune femme qui essaie de s'en sortir justement dans ce monde d'hommes.
Et alors comment est-ce que le travail se passe avec Laurence Equilbé?
C'est une approche assez intellectuelle, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion sur la partition et notamment sur cette partition inconnue.
C'est très scientifique, mais toujours avec le détail, un palette de couleurs incroyable.
C'est très intéressant d'avoir le metteur en scène et un chef d'orchestre comme ça qui travaille vraiment main dans la main. Il n'y a pas un qui s'occupe de la musique, un qui s'occupe de la mise en scène. Laurence a pris vraiment part à cette création de nos personnages également.
Alors, les enfants, lui, il est hanté par un fantôme. Vous avez déjà vu des fantômes? Oui. L'horreur. Ok, Tutti, s'il vous plaît, 14. Avec Michael.
Donc vous, vous avez des oreillettes et puis un petit micro et vous parlez aux enfants qui sont là pour assister à la répétition?
Oui, absolument. Ça permet de faire des commentaires pendant la répétition. Par exemple, je leur montre des instruments particuliers, des instruments qui vont être mis en valeur. J'essaye aussi d'expliquer ce que la chef leur dit, par exemple sur les nuances, piano, mezzo forte, forte, de traduire un peu, qu'ils comprennent mieux le rôle du chef, donc ses gestes et aussi la manière dont elle communique avec ses musiciens.
Qu'est-ce que vous avez autour des oreilles?
Des écouteurs.
Une oreillette. Une oreillette, précisément.
Pour écouter les informations de ce que font l'orchestre.
C'est la première fois que vous entendez, vous assistez à une répétition d'opéra?
Oui, c'est la première fois.
C'est les voix qui m'ont surprise. Je n'en ai pas l'habitude d'entendre ça.
Bah, c'est un monde de la musique un peu.
Classique. C'est fort le son.
C'est nouveau.
C'est un choc.
43, les bois. Ta-da-di-da-da. Ça coupe et c'est les corps qui tiennent. Un peu plus sec les bassons au corps, hein. Quasi avec des petits points. Hein. One, two,
en fait, c'est très intéressant de travailler une œuvre qui n'a pas été jouée depuis sa création en 1854, en tout cas à Paris.
Et alors, comment ça se passe des répétitions avec Laurence Equilbé?
Ah bah c'est à fond. C'est non-stop de la première minute de répétition jusqu'à la dernière. Elle nous laisse le temps aussi d'apprentissage. Donc
c'est une chef qui est très stimulante. On sent quand même que c'est sa musique, quoi. On sent qu'elle aime ce romantisme et ce drame. L'orchestre le sent aussi, du coup. On ressent bien que, ouais, que c'est une musique qui la fait vibrer.
Puis elle aime bien faire des choses un petit peu nouvelles. Et elle fait travailler beaucoup l'imaginaire musical.
Comment on se sent dans cet orchestre?
Ah bien, moi je me sens très bien. Des gens bienveillants les uns avec les autres, donc c'est assez agréable.
Vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'orchestre?
Moi, ça fait depuis la création, donc depuis 2012. Donc je suis là depuis le début, j'ai passé les auditions au début. Voilà,
Et vous l'avez senti évoluer?
Énormément. Le passage à la scène musicale, ça a beaucoup fait changer l'orchestre, notamment d'avoir des salles de répétition où l'acoustique est vraiment bien, du coup, et aussi la salle de concert de la scène musicale. Et oui, on a joué aussi toutes sortes de répertoires. Au départ, on était sur des répertoires plus anciens, donc sur du Mozart. Là, on est sur du Gounod, qui est plus tardif. Je trouve que l'orchestre a vraiment gagné en rondeur, en couleurs, différentes, et aussi en assurance. On joue mieux ensemble, de mieux en mieux.
Je voudrais bien entendre l'orchestre seul une fois depuis 7, s'il vous plaît. La légende de la nonne sanglante, hein. Un peu plus hiératique, la façon de faire.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
C'est difficile de s'écouter, Laurence Equilbé?
Oh, toujours un peu, je trouve toujours la voix paraît plus... Je vais parler plus grave maintenant. Ça paraît toujours un peu...
Non.
Là, ça m'a paru un peu dans les nasalités.
Mais c'est tout à fait normal. Voilà. Il paraît qu'il y a quelque chose en nous qui fait qu'on déteste notre voix. J'ai jamais compris exactement pourquoi, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on donne aux autres quand
oui,
on parle.
Ça.
Alors, c'est intéressant ce reportage, d'une part parce qu'on voit que les enfants, aujourd'hui, en 2018, ont quand même pas mal de possibilités d'accès à la culture. C'est le cas à la Philharmonie de Paris, c'est le cas aussi à la scène musicale. Il y a cette volonté, Laurence Equilbé, en tout cas de votre
l'orchestre. C'est certain que c'est vrai qu'il y a des possibilités plus ludiques, je pense, pour l'enfant et qu'on peut moins en laisser sur le bord de la route parce que, par exemple, ces casques-là, c'est formidable en répétition parce que les enfants viennent, ils sont préparés d'abord à ce qu'ils vont entendre, mais surtout après, il y a une interface avec un musicologue ou une musicologue qui leur parle.
Oui, ils ont un casque sur les oreilles. Hein.
Pendant, à des moments choisis, enfin, c'est assez ludique pour eux aussi parce qu'ils se sentent pas tout seuls à s'ennuyer, à pas comprendre ce qui se passe.
On entendait un musicien qui disait, David Bobet, c'est bien parce que tous les deux, le couple, si je puis dire, la chef d'orchestre et le metteur en scène, travaillent main dans la main. Je crois que vous avez travaillé main dans la main pendant 2 ans. Et c'est quoi précisément ce travail qui a été fait entre vous ?
C'est que Laurence, pour comprendre la musique, a besoin de absolument comprendre la situation, l'intrigue, le récit, la lecture dramaturgique, les mots, le détail, la virgule, et qu'elle tient à ce que je comprenne la musique pour pouvoir en tirer cette lecture et cette mise en scène. Et c'est vrai que ça a été un vrai moment de bonheur, quoi. 2 années à se voir régulièrement, des après-midi entières d'études, de pensées en commun. C'est rare en fait.
Vous connaissez bien la musique, vous, David Bobet ?
Non, très mal. Là,
vous avez déjà monté des opéras.
Hein. C'est mon deuxième opéra en fait. Et c'est vrai que l'opéra, ça pourrait être juste un collage, un peu de dernière minute entre un projet scénique et une direction musicale. Et puis on se sert des répétitions pour coller, mettre du scotch là où on peut. Et là, c'est tout l'inverse en fait. L'orchestre est absolument impliqué. Ils sont venus voir la General Piano. Et aussi, dans la façon de se voir en permanence, fait qu'on crée aussi une grande connivence. Je veux dire, j'aime sa rigueur, j'aime sa fantaisie, j'aime son intelligence. Et il y a quelque chose qui s'est lié entre nous et qui fait que je pense, aujourd'hui, quand on voit La Nonne Sanglante, on voit une œuvre total, en tout cas, où les différents ingrédients sont vraiment, vraiment, vraiment bien liés les uns avec les autres.
Déjà, je pense que avant même qu'on se mette à travailler ensemble, il faut aussi respecter beaucoup et admirer la personne avec qui vous allez travailler. Et ensuite, la partie la plus intéressante, surtout sur des œuvres rares comme La Nonne Sanglante, c'est de parler de la dramaturgie ensemble. Parce que sinon, l'interprétation, elle va être fausse. Il a raison, David, de dire qu'il faut que tout cela règne ensemble, comme on dit en architecture. Et c'est très important qu'on construise aussi un opéra de demain, c'est-à-dire dans laquelle la fausse est en contact, je veux dire, sentimental et profond avec ce qui se passe sur le plateau. Et il y a certaines productions où ça se passe pas. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est juste plus possible que ça soit comme ça. Donc, c'est pour ça que j'avais insisté aussi pour que ces fameuses répétitions italiennes de rencontres entre l'orchestre et les chanteurs se passent à la scène musicale dans une salle où l'orchestre peut voir en vrai, en chair en os, les chanteurs, parce que sinon, ils ne les voient pas s'ils sont sur le plateau, donc ça n'a pas de sens. Que l'orchestre vienne à la General Piano pour voir le spectacle, savoir pourquoi ils jouent ça, etc. Tout ça, c'est très important.
On va écouter un extrait de cette œuvre, La Nonne Sanglante. C'est La Marche des Morts, et c'est votre orchestre, Insula Orchestra, Laurence Equilbé. David Bobet, ça vous fait penser à quoi à ce moment-là ?
Clairement, la bande originale d'un film fantastique, d'un film de genre, d'un film d'horreur, quoi.
Ça veut dire qu'il a inventé des choses, Gounod, Laurence Equilbé, avec La Nonne Sanglante ?
Ah oui, d'ailleurs, je pense qu'il a dû être très meurtri que cette Nonne Sanglante n'ait eu que 11 représentations et ensuite plus jamais joué.
Et pourquoi d'ailleurs ?
Il y a eu une sorte de guerre des chefs à l'opéra à cette époque et que le nouveau directeur a considéré que la programmation du prédécesseur était nulle. Donc il a prétexté que c'était une abomination, cette œuvre, trop subversive. Et donc il l'a retirée de la affiche, et donc je pense que Gounod a pas pu non plus parfaire sa partition. Vous savez, parfois, quand il y a des choses qui marchent pas, quand on est artiste, on les met de côté, on veut plus les voir, vous voyez, parce que on considère que c'est un échec, ce qui est une erreur, hein, souvent, et je pense que c'est le réflexe qu'a dû avoir Gounod. Ouais.
Parce que des artistes qui ont vu cette œuvre l'ont apprécié, je pense à Théophile Gautier, je pense à Berlioz.
Ah oui, tout à fait, oui, il y a eu énormément de très belles critiques, notamment sur la musique. Après, je pense qu'il y a quand même quelques défauts dans l'œuvre de départ, c'est-à-dire qu'il y avait un tunnel de ballet qui avait pas grand sens, d'ailleurs, que nous avons gardé uniquement quelques minutes. Sa fin est expédiée, mais parce qu'on lui a demandé de resserrer tout à fait le dernier acte, qui est tout à fait ridiculement court, qu'on a essayé, nous, avec David, d'extendre un peu en rapatriant une introduction du début qu'on n'avait pas joué, etc. Enfin, il y a quelques déséquilibres, et je pense que si Gounod avait eu le loisir de ça, il aurait très bien pu la retravailler.
Laurence Equilbé, vous qui avez des goûts éclectiques, vous aimez l'électro, et je voudrais vous faire écouter le dernier phénomène électro en France. Il a 19 ans aujourd'hui, il avait 17 ans quand il a composé ça, ça a marché très très bien du coup. Il a été signé et il poursuit aujourd'hui sa carrière, sa jeune carrière. Voici son tube, Petit Biscuit. David Bobet, Petit Biscuit, rouennais comme vous.
Mmh, comme Raphaël Navarro.
Voilà. Et comme une partie de moi-même, hein, puisque Accentus, qui joue d'ailleurs dans la Nonne Sanglante, est en résidence à l'Opéra de Rouen en Normandie.
Voilà, tout cela est très cohérent, ce grand atelier est très cohérent. David Bobet, on a évoqué le souci de transmettre la musique classique aux plus jeunes et aussi à d'autres publics que le public des salles traditionnelles. Est-ce que à Rouen, j'imagine que oui, avec votre Centre Dramatique National de Normandie-Rouen, vous faites en sorte que des jeunes ou des moins jeunes viennent voir des spectacles?
Oui, il y a tout un ensemble d'actions qui sont menées, artistiques, culturelles, pour aller à la rencontre des publics, à commencer par ceux qui sont le plus éloignés de la pratique culturelle.
Comment vous allez les chercher?
En multipliant les actions, les projets.
Vous pensez à quoi?
Par exemple, un atelier d'écriture au sein du théâtre, auprès de primo-arrivants, avec l'idée qu'un théâtre puisse être le lieu où on apprend la langue française. Et puis cet atelier qui donne lieu à une mise en scène que je fais moi, pas dans le but de tourner un spectacle avec des réfugiés ou des primo-arrivants, mais simplement dans un but de valorisation de leur travail. On est en train de monter une salle de répétition, un musée, une galerie d'art dans un hôpital psychiatrique à quelques kilomètres de Rouen. On mène des actions avec des jeunes, avec les profs, avec les personnes en situation de handicap, dans les prisons. Enfin, on multiplie les actions pour essayer de diversifier au maximum les publics.
Est-ce que ça marche?
Bien sûr, ça marche. Le public se diversifie en essayant de pas oublier non plus les spectateurs et spectatrices amoureux et amoureuses du théâtre depuis longtemps. L'idée étant vraiment que le gamin qui est traîné par sa prof de théâtre courageuse pour venir voir un Victor Hugo ou un Ibsen puisse se mettre à la fin à applaudir puisque se sentant proche des codes esthétiques qui sont sur le plateau, se sentant impliqué avec un travail préparatoire, se sentant représenté aussi par les personnes qui sont au plateau avec des acteurs qui sont eux-mêmes diversifiés dans leurs origines ethniques, dans leur couleur de peau, leurs accents français, puissent se mettre à applaudir le même objet que la petite dame qui est assise juste à côté et qui, elle, se met à applaudir un Victor Hugo, un romantique passionné. Voilà, ils se mettent à applaudir une culture commune.
Laurence Equilbé, le public du classique vieillit, dit-on depuis des années, et donc chaque musicien et chaque chef doit réfléchir à renouveler les publics. Vous, par exemple, si on tape sur le site de la scène musicale et sur votre orchestre, Insula Orchestra en résidence, on vous voit allongé sur le canapé de Marc-Olivier Fogiel, avoir un gros souci, en tout cas lui raconter quelque chose qui ressemble fort au livret de La Nonne Sanglante.
Bon, ça ne me concerne pas tout à fait directement, mais je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui, au sujet d'un ami, Rodolphe. Je sens que ça ne va pas. J'aimerais l'aider, mais je ne sais pas quoi faire.
Je vous écoute.
Il est amoureux d'Agnès, une de mes connaissances, mais il a du mal à avancer dans cette histoire. Et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à assumer son désir.
Assumer son désir ?
Exactement. Je me demande s'il ne devrait pas d'abord essayer de régler ses problèmes avec son père.
Je trouve ça très drôle, moi, de faire ça avec Fogiel. On sent d'ailleurs qu'il est un peu intimidé, mais que vous êtes bien sur votre canapé.
Non, non, il est dans son rôle de psy, là, qui ne dit pas grand-chose, qui distille quelques mots comme ça. Je considère d'abord un petit peu dans le sillage d'un Nicolas Sarnoncourt avec lequel j'ai travaillé.
Un grand chef allemand qui vous a transmis beaucoup de choses. Hein.
Exactement, qui était un des premiers grands baroqueux qui a participé à ce mouvement historicisant, de savoir qu'est-ce que le compositeur veut nous dire, et donc on se rapproche de son époque pour essayer de comprendre au mieux son message. Et en tout cas, il disait quelque chose d'assez radical. Il disait, si une œuvre ne résonne pas dans notre époque, il ne faut pas la faire. Donc c'était assez radical. Trouver la clé de résonance d'une œuvre dans notre époque, ça c'est très important. Ça ne veut pas forcément dire pour autant la transposer systématiquement, mais je dirais c'est trouver son universalité. Voilà, donc ça c'est une première démarche importante. Et puis effectivement, autour d'un projet phare, j'aime bien faire un peu comme font le milieu pop d'ailleurs, une constellation de propositions artistiques ou pédagogiques. Et en tout cas, on est très actif dans l'espace numérique. Et j'aime bien faire ces web-séries qui éclairent un projet. Et là, effectivement, sur La Nonne, on a eu envie de faire deux épisodes, d'ailleurs, dans lequel David joue dans le deuxième.
David Bobet, ici présent.
Voilà, pour éclairer. Alors, le premier épisode, effectivement, moi, je parle du livret de La Nonne Sanglante à mon psy, tout en faisant croire que c'est une vraie histoire, parce que j'ai pas envie de lui demander qu'il m'aide à construire la dramaturgie de mon projet. Donc, ça éclaire beaucoup sur le livret. Et le deuxième épisode, qui sort donc le lendemain, et dans la salle d'attente avec David, qui est avec une jeune thésarde et qui discute du gothique. Et on apprend beaucoup sur ce qu'est le mouvement gothique au 19e siècle.
Est-ce que vous savez qui regarde ça? Est-ce que vous avez une idée de ce public-là?
Ça se veut vraiment grand public. Bon, là, c'est plutôt des gens un peu branchés psy, comme on dit, parce qu'il y a quand même des clés psychanalytiques, et qui aiment aussi le romantisme noir. Mais l'idée, c'est d'élargir le public, justement, d'élargir l'intérêt des gens pour cette œuvre, La Nonne Sanglante, par des chemins détournés. Donc voilà. Et ça, c'est vrai que j'aime beaucoup, j'écris souvent les scénarios de ces web-séries avec Blandine Berthelot, qui est une de mes musicologues chez Insula Orchestra. Et il faut avoir la bonne idée. Je pense que là, l'idée de... Merci à Marc-Olivier Fogiel, d'ailleurs, d'avoir accepté de détourner son émission pour les besoins de cette nonne sur le divan.
Ça vous amuse, ça, David Bobet, qu'une musicienne comme Laurence Equilbé invente en permanence, essaie de trouver des moyens de nous accaparer, de nous capter?
Je trouve très bien qu'elle soit à la fois à un endroit d'extrême rigueur par rapport à un travail vraiment très très précis artistiquement, et en même temps pas dans la sacralité de ce travail-là. Il y a quelque chose d'un espèce de mélange des genres qui est extrêmement joyeux et adapté à l'époque que l'on vit. Mmh. Et ça va très bien, en plus, avec l'opéra que l'on fait, qui mélange les codes d'une culture dite noble, qui serait celle de l'opéra, d'une musique savante, et puis celle du film de genre, de cette culture comme ça, fantastique, de la culture pop. Et les deux se mélangent juste admirablement bien.
On va écouter Christine and the Queens. Je pense que vous aimez bien cette artiste.
Oui, j'aime bien. Son ascension a été incroyable. On parle souvent d'Oscar Wilde avec David parce que on parlait du style, et je trouve que Oscar Wilde dit un truc qui m'a interpellé. Il dit que dans les affaires essentielles, dans les affaires importantes, l'essentiel est le style plus que la sincérité. Je trouve que Christine and the Queens, elle s'est faite repérée parce qu'elle a créé un style tout d'un coup. Après, le fond, on peut discuter, etc. Mais c'était quand même une volonté de radicale, stylistique et esthétique, que j'ai trouvé vraiment admirable quand elle a démarré, quoi, dès le départ, quoi. Et ça, c'est une pulsion artistique très forte, je trouve.
Christine and the Queens, Amazoniac, c'est une reprise d'un titre d'Yves Simon. Dans un instant, on va parler d'univers culturel qui est bien plus masculin que féminin, avec Claire Chazal et avec Muriel Couton de la SACD. Et puis nous recevrons aussi un grand ténor. David Bobet, vous restez avec nous?
Mm-hmm.
Juste après les infos. Thank you. Deuxième heure en compagnie de Laurence Equilbé, la chef d'orchestre, la chef du chœur Accentus, qui dirige actuellement à l'Opéra Comique à Paris La Nonne Sanglante, opéra de Gounod, avec à la mise en scène David Bobet, qui est resté avec nous. Tout va bien, monsieur Bobet?
Tout va très bien, Vincent Joss.
On reçoit aussi Claire Chazal. Bonjour, Claire Chazal.
Bonjour, Vincent.
Vous êtes bien souriante.
Alors pourtant, c'est pas tout à fait le reflet de mes pensées depuis ce matin, mais je suis contente d'être avec vous.
Vous êtes un petit peu noire aujourd'hui?
On va dire ça comme ça.
Oh, mais on va faire en sorte de mettre du soleil dans cette âme. Muriel Couton, vous êtes à la SACD, la Société des auteurs, compositeurs, dramatiques, pour évoquer la place des femmes dans la culture et dans la musique en particulier. Et puis nous accueillons aussi le ténor Stanislas de Barberac. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez une tête d'un garçon qui va bien.
Ça va, ouais, tout va bien.
Ça fait plaisir. On va écouter de la musique pour être en super forme. D'abord, racontez-nous ce que vous avez fait il y a 10 ans, Laurence Equilbé. Ça s'appelait Private Domain.
Ah oui, c'est il y a longtemps, ça. C'était
10 ans.
On en parlait en première partie d'émission. C'est cette quête de rencontre et de mélange des arts ensemble, de synergie artistique. Et c'est vrai que j'avais envie de rencontrer la scène électro, parce que j'aime bien l'électro. Et je pense que pour rencontrer vraiment les gens, il faut faire des choses avec eux, travailler avec eux. Et c'est ce que j'ai fait avec cet album que j'ai appelé Private Domain, parce que c'était vraiment un chemin de traverse pour moi. D'ailleurs, j'avais pris un nom d'avatar, un pseudonyme, comme font tous ces artistes d'ailleurs.
Vous appeliez Aiko.
Voilà, comme iconoclaste, parce que j'avais fait quelques dîners avec des classiques ultra qui m'avaient dit « tu peux pas faire ça, c'est un scandale », etc. Donc ça m'avait bien amusé de prendre ce pseudo.
Ça a choqué dans le monde de la musique classique?
Non, mais certains trouvent qu'il faut pas dévoyer, ce que je peux comprendre. J'adore le urtexte qu'on appelle la source, bien sûr, que je défends la source. Je défends la version d'origine, etc. Mais je pense que c'est très intéressant de pouvoir éclairer d'un versant nouveau, d'une lumière nouvelle. C'est comme gravir une montagne par un autre versant, en fait. On découvre quand même des choses sur l'œuvre. Sur sa puissance originelle.
Alors dans la scène électro-française, vous aviez rencontré pas mal de trentenaires. Il y avait entre autres la grande Émilie Simon.
Absolument, il y avait Émilie Simon, Parawan, il y avait Murkoff, il y avait Marc Collin, il y avait Paul et Louise, enfin il y avait pas mal de gens. Et après on a fait des lives, alors ce qui était très, très intéressant quand on a fait des lives dans des cathédrales, parce qu'on a créé ça à Bourges, au printemps de Bourges.
Avec votre chœur Accentus.
Il y avait Accentus, il y avait déjà des musiciens sur instruments d'époque, et puis il y avait un light show, enfin c'était assez extraordinaire. Et il y avait, après dans le live, il y avait notamment Rosemary Stanley, qui chante dans le groupe Moriarty, qui depuis d'ailleurs a eu un enfant avec le théorbiste. Donc grâce à moi.
Laurence la Marieuse. On va écouter Émilie Simon avec vous justement dans ce disque Private Domain, c'est Un rêve de forêt.
Je rêvais le bonheur.
Ah, je suis contente de vous faire découvrir ça, visiblement, oui. Stanislas de Barbeyrac, Muriel Couton et Claire Chazal, vous ne connaissiez pas ?
Pas du tout, moi je connais bien Laurence, mais je ne savais pas qu'elle avait fait cette expérience incroyable de mêler les voix comme ça.
Il paraît que tout le monde lui demande un deuxième disque de ce Private Domain.
Mais en fait j'y pense plus ou moins de temps en temps, j'aimerais bien faire quelque chose autour justement des airs d'opéra. On parlait d'universalité tout à l'heure, il y a justement ces mélodies dont on peut s'emparer, qui n'ont pas forcément besoin d'un pathos lyrique tout le temps. D'ailleurs, dans ce disque, il y a un air de Traviata que j'ai bien aimé rendre universel parce que j'ai baissé la tessiture et vous comme moi, tout le monde peut le chanter. Et ça, j'aime bien l'idée. Mais par contre, donc il y a beaucoup d'air qui se popisent très facilement. Là, je voudrais bien faire un opus pop.
Oui. Mais par contre, vous pensez à quoi, par exemple ?
Il y a beaucoup de choses dans le baroque, etc., notamment ce qu'on appelle les grandes, les basses obstinées, tout ça, c'est très facile à faire. Mais par contre, il y a que des choses nostalgiques ou tristes, et j'arrive pas à transformer les choses gaies de l'opéra dans le pop. Pour l'instant, je me dis, je veux quand même pas faire un disque que sur le truc, un peu la balade, un peu, oui. Donc, je sais pas.
Claire Chazal, vous regardez avec admiration Laurence Equilbé.
Ben, moi, Stanislas de Barbeyrac aussi. Parce que pour moi, la musique, évidemment, c'est un monde à la fois très proche parce que j'adore et j'en écoute toute la journée, mais lointain parce que je n'ai pas pratiqué, je ne sais pas.
Non, vous savez danser, mais vous ne savez pas jouer.
Voilà, enfin, en tout cas, je sais mieux danser que. alors, je crois que ce que je préfère, ce sont les voix. Et donc, la musique classique, j'y suis venue par l'opéra, par les voix. Et c'est ce qui m'émeut, en fait. Et donc, je crois savoir quand une voix est bien ou pas. Stanislas de Barbeyrac, moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, dans un magnifique dialogue des Carmélites, où il avait repris ce rôle, et c'était sublime, absolument. Alors, c'est vrai que la mise en scène d'Olivier Py, tout ça, bon, c'était magnifique. Enfin, David Bovet, je vais le dire. Et puis aussi, là, récemment, dans le Ravel Puccini,
Janis Kiki.
Laurent Pelli, Janis Kiki. Voilà. Donc, on le suit, on l'aime beaucoup.
Muriel Couton, vous êtes là parce que vous êtes à la SACD qui régulièrement s'intéresse à la place des femmes dans la culture. Le dernier rapport remonte à quand ?
Automne 2016.
Et qu'est-ce qu'il disait de nos femmes artistes ?
Qu'ils n'étaient toujours pas là.
4% de femmes dirigent des opéras, des concerts. Je trouve ce pourcentage édifiant. Vous aussi, Laurence Equilbé, quand vous avez appris ça, comment vous avez réagi ?
En fait, c'était un étudiant qui était en stage chez moi, qui faisait une thèse justement sur le sujet. C'était en 2012. Vraiment, j'ai été très choquée. Je ne pensais pas que c'était à ce point. Et dans le même temps, il y avait une table ronde au Sénat à laquelle j'étais conviée. Et dans le même temps, j'ai rencontré la SACD et Muriel. Et on a décidé d'éditer une brochure. Et effectivement, et on est vraiment tombé très très haut. Parce que moi, je ne pensais pas que les chiffres dans la programmation artistique étaient aussi désastreux. Et c'est vrai qu'on s'est battu pendant 5 ans. Et qu'on est arrivé enfin à une feuille de route ministérielle qui est très ambitieuse. Et donc, moi, j'espère juste qu'elle va vraiment être appliquée, parce que je pense que c'est des très bonnes mesures.
Françoise Nyssen a annoncé des mesures à venir, c'était en février dernier, ouais. Et elle tient absolument à ce que, dans quelques années, il y ait une parité.
Même chose pour le cinéma.
Même chose pour le cinéma. Vous y croyez ?
Bah, en fait, il faut pas non plus se bercer d'illusions, c'est-à-dire qu'il faut aussi laisser le temps aux femmes de faire leur trajet de carrière, mais en tout cas, il faut une égalité d'accès aux moyens de production, ça c'est le plus important, et c'est pour ça que les préconisations de la SACD, c'est très intéressant, parce que c'est, on phase cette montée, le but c'est pas la parité pour la parité, oui. C'est un peu artificiel je trouve, mais en tout cas, c'est vraiment favoriser à égalité de chance de moyens de production, c'est se donner 3-4 saisons avec ce qu'on appelle aujourd'hui une discrimination positive, c'est-à-dire vraiment avec des objectifs chiffrés de plus 5% par saison pendant 3 ans, et après en espérant que ce moment, si on parle de physique, puisse être suffisant pour avoir un mouvement plus naturel après.
Il y a beaucoup de femmes qui veulent être chef d'orchestre.
Ah ben moi j'ai bien sûr. Aujourd'hui, dans la vraie vie, on devrait être le pourcentage qui résonnerait bien serait à peu près 20%, je pense. C'est-à-dire il y a des femmes qui sont pas programmées. Elles existent, mais elles ne sont pas programmées.
Et vous expliquez ça comment ?
Beaucoup d'a priori. On voit aussi parfois un peu les conservatismes du milieu musical.
De quel type ? Qu'est-ce que vous avez constaté ? David ? Bobé ?
David ? Non, mais c'est enfin, surtout du manque de diversité ethnique sur les plateaux de cinéma, de théâtre.
C'est votre cheval de bataille, ça,
particulièrement de l'opéra. Enfin, en gros, plus on monte haut dans la hiérarchie des disciplines artistiques, et plus on est à l'endroit d'un privilège blanc, d'une domination masculine, qui met en périphérie, en appelant diversité, tout ce qui ne lui ressemble pas, en fait. Et donc là, la bataille, c'est effectivement de se donner des objectifs chiffrés, comme un espèce d'outil temporaire pour arriver à l'égalité réelle. Et une fois qu'on sera à l'égalité réelle, on ne se posera plus la question. Quand je suis arrivé à la direction du Centre Dramatique National de Normandie-Rouen, je me suis pas posé de questions, je suis un homme féministe. Donc je sais que je programme des femmes, donc pas de problème, ça va venir tout seul. Je me suis dit la même chose que les copains. Et puis je me suis rendu compte, au bout de la première année, que j'avais programmé 35% de femmes. Et là, je me suis vraiment posé la question. Donc très, très clairement, j'ai décidé de me donner un cadre strict, c'est la parité réelle. Et puis la même chose pour la diversité. Il y a un vrai problème parce qu'on ne peut pas comme ça mettre les gens à la porte de la culture d'un pays. Ce qui crée un peuple, c'est bien sa culture. L'identité nationale après laquelle tout le monde pouvait courir à un moment, elle se passe à l'endroit de la culture. Celle que l'on hérite avec des racines multiples, celle que l'on crée avec les gens qui sont au moment présent autour de nous, et puis celle qu'on va transmettre. Et c'est cette minorité qui est la gente féminine, qui est juste 52% de la population. Enfin, c'est juste un scandale, quoi.
Je vais vous faire écouter quelque chose d'assez édifiant. Vous devez connaître cette archive, Laurence Équilbé. C'est le chef d'orchestre et compositeur Pierre Dervaux en 1973. Oui. Voilà comment il parlait des femmes qui commencent à diriger.
Dans le passé, je n'en ai jamais vu réussir de très grandes carrières. D'ailleurs, ce n'est pas très original de dire ça, parce que tout le monde peut constater la même chose. Ça ne veut pas dire qu'à partir d'aujourd'hui et pour l'avenir, il n'y aura pas de Toscanini femelle, si j'ose ainsi m'exprimer, n'est-ce pas? Mais jusqu'à maintenant, je ne peux que me répéter, nous n'avons pas eu la démonstration de réussite éclatante. Et pourtant, il y a beaucoup d'essais.
Est-ce que vous souhaiteriez qu'une femme puisse réussir?
Oh, ça ne me gêne pas du tout. Moi, je suis à 4 ans de la retraite. Alors, vous savez, c'est sans intérêt pour moi. Mais je ne vois pas pourquoi ça gênerait les collègues hommes de voir des femmes réussir. Ça, vous savez, on est déjà assez ennuyé par la concurrence masculine. Alors, vous avez un peu plus, un peu moins.
Est-ce que ce n'est pas un exploit de la part de ces femmes d'être chef d'orchestre?
Oui, bien sûr. C'est ce que je dis d'ailleurs aux élèves femmes que j'ai. C'est que si elles réussissent, elles auront encore plus de mérite que les hommes.
Ça vous fait sourire quand même, Laurence Équilbé, Claire Chazal.
Là, franchement, j'adore. Merci de compléter ma panoplie.
C'est l'expression qui était trop grande.
Toscanini femelle.
Ouais. Ça ne me gêne pas. Bon.
Puis je suis à 4 ans de la retraite.
Oui. Non, ce qui est un petit peu pratiquement qui confine au harcèlement pour certaines femmes chefs aujourd'hui, c'est que encore tout récemment, Irma Panula, qui est quand même moi qui ai été un de mes profs, a dit oui, les femmes, elles peuvent diriger à la limite de Debussy-Forêt, ça va. Bon, voilà. Bon, et il y a eu aussi un jeune chef russe qui a dit qu'elles n'avaient pas leur place sur le podium parce qu'elles distrayaient trop le musicien à cause de leur puissance érotique. Enfin, il y a quand même tout et n'importe quoi qui dit là-dedans et on entend ça régulièrement, y compris des gens qui vont vous dire que les femmes, oui, sont plutôt plus douées pour le piano, c'est connu, etc. Enfin, comme si le genre amenait une capacité plus forte pour tel ou tel art, etc. Et qui croit encore à l'éternel féminin, quoi. Ils n'ont pas compris que depuis, il y a la condition humaine, quand même. Donc, c'est encore aujourd'hui. Je ne connaissais pas cette archive.
Muriel Couton, de la Société des auteurs-compositeurs dramatiques. Parlez-nous des chiffres, parce qu'il parle. Il n'y a pas simplement 4% de femmes chefs d'orchestre en France. Il y a d'autres chiffres édifiants.
Les autres chiffres, en fait, celui qui était encore plus édifiant, c'était celui des compositrices. Puisqu'en fait, quand on a fait la première brochure, je crois qu'il n'y en avait pas. Et pour les suivantes, on a eu du mal à mettre des pourcentages parce qu'elles étaient en dessous de 1%. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Après, dans les autres disciplines du spectacle vivant, c'est vrai qu'en fait, de compter a permis de conscientiser le sujet. Et on s'est aussi rendu compte que sur la durée, en faisant ça sur 5 ans, que les choses changeaient, mais pas de manière continue. En fait, ça peut s'améliorer, régresser. C'est pour ça qu'en fait, tout l'enjeu de la feuille de route de Françoise Nyssen, ça va être le suivi des engagements qui ont été pris. Il y a 6-7 ans, parler d'objectifs chiffrés, c'était juste un gros mot. Aujourd'hui, c'est acté. Dans la feuille de route, il y a un autre sujet, c'est le malus. C'est-à-dire qu'en cas de non-respect des obligations, qu'il y a un malus, ça, pareil, on se serait fait lyncher en parlant de ça. Donc il y a quand même des choses qui ont bougé, en tout cas dans le discours. Maintenant, il faut voir dans les actes ce que ça signifie. Et surtout, de s'assurer que dans toutes les disciplines du spectacle vivant, mais aussi de l'audiovisuel, puisque la SACD est présente sur les deux répertoires, on a vraiment fait un gros effort aussi par rapport à la télévision, le cinéma. La radio, c'est un petit peu moins saillant. Mmh. Mais en audiovisuel, par exemple, on sait que c'est le poste où les femmes sont très peu présentes, c'est les réalisatrices. En revanche, les scénaristes, c'est un petit peu mieux. Pour une raison qui est un peu terrible, c'est effectivement, quand on est scénariste et qu'on a des enfants, on travaille plus facilement. Réalisatrice, on va moins confier des budgets de production à une femme réalisatrice. Donc il y a vraiment tout ce travail à faire.
Ça vous fait réagir, Claire Chazal?
Ben, on sait que, par exemple, de la Fémis sortent énormément de femmes, une proportion importante, et on ne les retrouve pas, évidemment, après à l'avance sur recette ou au financement public du cinéma, et évidemment à la réalisation. Il y a vraiment un problème. Elles sont douées, elles font des études pour ça. Et
beaucoup se plaignent de ne pas être programmées dans les festivals aussi.
Alors, dans les festivals, exemple, ça, c'est quelque chose qui, effectivement, on avait suivi dans la brochure un certain nombre de festivals. Par exemple, à Avignon, c'était pas, ça a progressé. Mais c'est vrai que c'était, on aurait pu imaginer que le Festival d'Avignon était l'endroit où la parité n'était même pas un sujet. C'était pas le cas. Donc. En fait, ce qui est important, c'est que les programmateurs, ceux qui choisissent les spectacles, aient conscience de ce sujet. Parce que moi, la première fois qu'on a fait la brochure, quand on l'a sortie, c'était au moment d'Avignon, certains directeurs de lieux m'ont dit « Est-ce que j'ai des femmes ?» C'est la première réaction qu'ils ont eue. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant.
On va écouter un homme, si vous voulez bien, Laurence Aquilbé.
Avec plaisir. Hein.
Un ami à vous, c'est Beethoven.
Ah oui.
C'est votre chouchou.
Bah, en tant que chef, parce qu'il y a des musiques que j'adore écouter, etc. Mais il y a aussi les musiques qu'on dirige. Et je dois dire que Beethoven, il y a cette impatience dans Beethoven. D'ailleurs, il parlait de lui comme un compositeur électrique. Et moi qui suis une
personne... C'est des adjectifs qui vous vont bien?
Je suis assez impatiente, oui, c'est un défaut ou une qualité, ça dépend. J'ai acheté un pins en Allemagne qui dit « Ungeduld ist Schuld », ça veut dire « l'impatience est une faute ». Alors parfois je le regarde. Et ce que j'aime bien chez Beethoven, c'est évidemment son côté complètement universel et aussi visionnaire hein, d'une forme de société nouvelle. Mais cette urgence, cette impatience, ça, en tant que chef, c'est très excitant.
Thank you.
Qu'est-ce que nous écoutions, Laurence Equilbé, petit
quiz? C'était le rondo final du quatrième concerto que je connais bien parce que je viens de l'enregistrer avec Insula Orchestra et Nicolas Angelich et que ça sort en septembre moi, chez Warner, donc c'est drôle que vous mettiez ça.
Et là, c'était Pierre-Laurent Aymard au piano avec l'Orchestre de Chambre d'Europe dirigé par
Arnaud Cour,
l'un de vos pères. Il y a quelques hommes d'ailleurs qui comptent dans la vie de Laurence Equilbé comme maître.
Ah oui, il y en a beaucoup.
Le Suédois Ericsson.
Ericsson, qui a été la partie très inspirante pour ce qui est de la voix et du cœur, et Arnaud Cour et Abado, beaucoup à Vienne, dans mes études viennoises, qui m'ont définitivement inspiré énormément.
Il y a Claire Chazal qui est avec nous. Vous teniez à ce qu'elle soit dans votre grand atelier. Pour quelles raisons?
Plusieurs raisons. D'abord, j'aime beaucoup Claire depuis longtemps et je suis bien ce qu'elle fait. J'aime beaucoup son éclectisme et sa curiosité incroyable. On se rend compte souvent au spectacle, dans des choses même parfois improbables, des choses très, très nues. Et donc, c'est quelqu'un qui a une réelle appétence pour le spectacle vivant et la culture en général, que j'ai vu jouer aussi au théâtre, qui a fait des lectures et qui vraiment cette urgence de tout connaître et qu'elle-même aussi écrit. Elle vient de sortir son livre.
Il s'intitule « Puisque tout passe, fragment de vie ». Et voilà. Vous êtes entrée dans ce studio, Claire Chazal, en nous disant au micro que vous aviez un petit moral ce matin. Pour quelle raison?
Alors, je le décris un peu dans le livre.
Ah oui.
Non, je peux avoir un tempérament déjà un peu sombre. Dans la journée, je peux passer d'un état à l'autre.
Oui, là, cet après-midi, vous êtes en forme.
Formidable, ce soir aussi. Mais c'est vrai que je vais rien voir de particulier ce soir. Mais sinon, j'adore. Comme dit Laurence, je crois que ce que j'ai vraiment aimé, ce qui m'a construite, et je le dis un petit peu dans le livre, c'est les émotions que je peux partager en allant voir un spectacle à la colline, un spectacle à la scène musicale, un spectacle à l'opéra. Moi, c'est ça qui me tient. Faire de la danse aussi.
Moralement, vous avez besoin de la danse tous les jours?
Oui, j'en ai besoin, oui. J'en ai besoin parce que ça constitue évidemment un effort physique et ça, je trouve ça très salutaire. Ça me repose, au fond, cet effort-là me défatigue. Et en même temps, il y a quand même une recherche artistique puisqu'il y a un piano, il y a l'idée qu'on doit être harmonieux avec la musique, il y a la recherche du beau geste, de l'équilibre, d'une ligne. Et cette exigence-là me plaît, me porte, en fait.
L'âme noire de Claire Chazal que vous décrivez dans votre livre, c'est depuis l'enfance, vous aviez des moments d'angoisse et de panique que vous aviez du mal à calmer.
Tout ça est né d'une enfance, effectivement, et tout ça se transmet. On va tous chercher comment on est constitué et d'où nous viennent nos peurs, nos craintes, nos angoisses.
C'est un peu le tempérament maternel. Hein.
Et ça a été largement transmis par ma mère, mon père aussi, mais c'est des gens d'une génération qui avaient fait la guerre, qui avaient vraiment manqué de tout, ça serait faux, mais qui étaient vraiment issus d'un milieu très modeste, qui avaient dû vraiment s'élever grâce à leurs efforts, à leur travail. Et je crois qu'ils avaient peur, de la vie. On ne peut pas le leur reprocher, mais le principe de plaisir est pour eux très loin derrière le principe de réalité. Et c'est ce qu'on m'a transmis. Donc j'ai vécu avec ça, en fait.
Vous dites que vous êtes courageuse.
Enfin, c'est ce que ma mère a dit un jour, donc j'ai pris ça comme un compliment. C'est à peu près le seul qu'elle m'ait dit, donc je me suis déjà réjouie. Mais en même temps, courageux, c'est pas mal, mais la vraie vertu, c'est d'être courageux pour les autres, en fait. On parle des héros en ce moment beaucoup, oui. Bien sûr, et on en a besoin. Mais ils sont courageux, mais ils sont courageux pas tournés vers eux, ils sont courageux pour quelqu'un. Si j'avais des vertus à transmettre, ça serait d'abord la vérité, dire la vérité, et puis faire quelque chose pour les autres.
C'est ce que vous apprenez à votre fils François.
C'est ce que j'essaie d'apprendre à mon fils, oui.
Ce que j'ai aimé dans votre livre, c'est cette façon de vous mettre à nu, notamment professionnellement. Vous dites, alors que nous vous pensons plutôt très forte, vous qui présentiez les journaux sur TF1, vous dites que, par exemple, la dernière fois que vous avez interviewé Hollande, vous n'étiez pas seul, vous étiez deux.
Et, oui, il y avait David Pujadas.
Il y avait Pujadas, et vous avez eu tellement peur au début de l'interview que vous étiez prête à quitter le studio et à dire à Pujadas, débrouille-toi tout seul.
C'est-à-dire que ce ne sont pas des peurs techniques. Moi, je n'ai pas eu de trac de journal ni du direct, que j'ai fait beaucoup, et parfois des très longues sessions. Ce n'est pas ça. J'ai aimé ce métier, et je pense que je l'exerçais, disons, avec toute une équipe, de toute façon. Ce qui était en moi, c'était des peurs personnelles, c'était des peurs physiologiques, c'était peur de l'évanouissement, peur de la disparition, au fond, peur de ne plus respirer. Enfin, toutes ces phobies que je décris, elles arrivaient parfois sans prévenir, même d'ailleurs toujours sans prévenir. Et ce 14 juillet, le dernier, finalement, interview du président, j'en avais fait énormément, et je ne pensais pas que ça me saisirait, et ça m'a saisi.
Bonjour, monsieur le président.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir à l'Élysée pour cette quatrième interview du 14 juillet. Avec David Pujadas, nous allons bien sûr aborder les dossiers les plus brûlants.
je me suis reprise, parce qu'on finit toujours par puiser en soi une force, mais ça m'est égal, moi, de montrer ses faiblesses, finalement. Ce que j'aime, moi, chez les gens, c'est quand ils me disent j'ai peur ou je suis fragile. Moi, ce qui m'intéresse chez un être humain, c'est bien sûr ses forces, mais c'est plutôt ses fractures. En fait, je me suis pas posé la question de l'effet produit. J'ai dit ce que j'avais ressenti, je ressentais.
Vous êtes difficile à vivre ?
Je pense que je suis pas forcément facile, oui. Je suis éprise de liberté, donc d'autonomie, d'indépendance. Évidemment, si on empiète là-dessus, ça constitue une contrainte et je peux m'en séparer. Donc, c'est pas forcément facile, oui.
Laurence Equilbé, vous êtes émue par ce témoignage. C'est pas évident de montrer ses faiblesses.
Non, c'est pas évident, d'autant qu'on est dans un milieu où il faut paraître très équilibré. C'est un paradoxe, d'ailleurs, j'en parle souvent, de la direction d'orchestre où... il faut à la fois inspirer les gens qui sont en face de vous et en même temps être super zen, pas du tout un mot plus haut que l'autre. Maintenant, les chefs à la Toscanini, c'est plus du tout possible aujourd'hui. Donc, c'est ce paradoxe.
Mais on aime l'autorité de Laurence, mais on imagine qu'elle a sa sensibilité à elle, ses fragilités à elle, et c'est ce qu'elle transmet dans sa direction d'orchestre. Et là, c'est la même chose pour tous les artistes. On a envie de voir un être humain, en fait, derrière, et pas qu'une technique, de toute façon. C'est ce qui nous plaît, c'est ce qui nous touche.
Mais en tout cas, moi, j'ai un petit peu envie de reparler aussi de la Claire actrice, puisque quand on a fait ce disque Schubert, leader avec orchestre avec Stanislas de Barbeyrac, on a imaginé que j'étais mise en examen pour contrefaçon, et Claire a accepté tout de suite de présenter un faux journal, mais des gens y ont cru.
Donc c'était encore une web-série.
Oui, c'est ça, et elle a eu la gentillesse de faire son propre rôle en annonçant ma mise en examen, puis mon incarcération.
Je confirme, des gens y ont vraiment cru.
Ouais. C'est
les gens de ma famille m'ont appelé, m'ont dit « Mais dans quoi tu t'es embarqué? Qu'est-ce qui se passe ?» Ça a marché.
Ah oui, c'est ça.
Le monde de la musique est en émoi. Classical Music News apprend à l'instant la mise en examen de Laurence Equilbé pour contrefaçon par atteinte au droit moral du compositeur Franz Schubert. Coup dur donc pour la chef d'orchestre et son ensemble Insula Orchestra à quelques jours seulement de la sortie de leur nouvel album consacré au leader orchestré de Franz Schubert à paraître chez Warner Erato. Lorenzo, vous êtes sur place, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette affaire, pour le moins inédite ?
Vous auriez aimé jouer, être comédienne, Claire Chazal ?
J'ai fait un peu des lectures, là je viens de faire un petit rôle dans un téléfilm pour France 3, qui n'est pas mon rôle, donc c'est un vrai rôle, où je suis obligée de jouer, d'apprendre un texte et d'être avec des partenaires, j'avais quand même quelques scènes. Je suis députée maire, donc je me suis mise dans la peau d'un personnage.
De quel bord ?
Plutôt centre-droit, on va dire. Oui. Voilà. Tout ça devait me correspondre, j'en sais rien, ils m'ont choisi pour ça. Mais j'aime bien, moi j'admire beaucoup le travail d'un acteur. Je ne suis pas du tout actrice, je sais que c'est un vrai métier. Les lectures, c'est un peu différent. Là, je me rapproche de ce que j'ai fait toute ma vie, de lire, de transmettre par l'oral, par la voix. Mais jouer, c'est passionnant, oui, bien sûr.
Ça vous manque le mentor ?
Ça me manque parfois. Pas toujours, et j'ai beaucoup dépassé cette chose-là, mais ça me manque au moment des événements importants, joyeux ou dramatiques. J'aimerais parfois participer à l'émotion collective et ne pas me sentir un peu inutile.
Il y a un moment dans votre livre où vous dites que c'est difficile de ne plus être à l'antenne à une heure de grande écoute et que vous vous surprenez un dimanche après-midi à vous balader dans le jardin des Tuileries à Paris, à espérer que les gens vous reconnaissent et vous sourient.
Ça m'est arrivé vraiment au début, c'est-à-dire ces premiers week-ends, j'avais passé toute ma vie, puisque avant d'être sur TF1, j'étais sur Antenne 2, puis avant dans la presse écrite, nous travaillons tous les dimanches. Enfin, moi je n'ai jamais eu, et j'étais très heureuse comme ça, moi j'adore travailler le week-end et être un peu libre la semaine. Et là tout d'un coup, je me retrouve un peu dans un vide. Et c'est là que cette promenade dans Paris m'est apparue incongrue, absurde, vertigineuse, et qu'on cherche à se raccrocher à des choses. Et autant je cherche jamais dans la vie les regards des gens, qui d'ailleurs sont très gentils et très bienveillants, très chaleureux, là je me suis mise à les chercher, et c'est dans ces moments-là d'ailleurs qu'on ne les trouve pas et qu'ils vous manquent.
Je retiens cette phrase aussi de votre livre, puisque tout passe fragment de vie chez Grasset, Claire Chazal, c'est « La notoriété n'offre ni confiance en soi, ni estime de soi à celui ou celle qui en manque.
» Bien sûr que c'est formidable. Moi, j'étais très heureuse. Je suis très heureuse de ce personnage et j'en ai pas du tout souffert. Mais ça ne vous comble pas complètement. Ça ne chasse pas les doutes sur soi-même, sur ce qu'on vaut.
Sur France 5, vous interviewez des artistes, des écrivains, des comédiens, des chefs d'orchestre comme Laurence Équilibé. Vous reprenez sa entrée libre à la rentrée ?
Oui, tout à fait. Une 8e saison qui va commencer en septembre. Cette émission quotidienne, d'abord, est formidable. Elle fait écouter les artistes, elle transmet des passions, des coups de cœur de toute une équipe de journalistes passionnés, cultivés, intelligents. Et on essaye de montrer, je crois, un paysage culturel diversifié, non élitiste, mais exigeant.
Vous écoutez sur France Inter le grand atelier de Laurence Équilibé. Je vous propose d'écouter Angèle, Je veux tes yeux.
Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo. Je veux les deux, je veux les deux sans sentir ta peau. Connectée en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends. Qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux, que tes beaux yeux. Un jour peut-être, on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas. Je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoires. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux. Je veux tes yeux.
Je veux tes yeux. Voilà, peut-être que vous interviewerez un jour cette jeune autrice, compositrice, interprète, Claire Chazal.
Ah ben, dans Entrée Libre, nous suivons absolument la jeune génération, la jeune scène française qui monte. Absolument.
Et elle agite ses mains pour montrer que c'est la jeune scène française, Claire Chazal. Un ténor est avec nous, on l'a déjà entendu.
Lui, il est plus très jeune.
Ah ben, tiens. Ah ben, vous êtes désagréable avec les hommes de cette équipe.
Très confirmé.
Vous avez quel âge, si je puis me permettre?
34 ans depuis peu.
C'est bien.
Mais... encore jeune.
C'est bien.
Vous aimez ce chanteur, visiblement, Claire Chazal?
J'aime beaucoup. Vraiment, parce qu'il joue, et il a un physique, et il a une voix extraordinaire, une sûreté, je trouve, et surtout, il y a un jeu, quoi. Non, mais je citais le dialogue des Carmélites, parce que moi, j'ai vu les deux versions. Et la première, c'était pas vous.
Voilà. Tout à fait. Oui.
Laurence Équilibé, pourquoi la venue dans votre grand atelier de Stanislas de Barbeyrac?
Ben, je suis comme Claire, j'aime beaucoup, beaucoup la voix de Stanislas. Je l'ai rencontré il y a très longtemps quand on a fait une flûte enchantée à Avignon. Donc, il était encore beaucoup plus jeune. Et puis, depuis, je lui ai proposé plusieurs choses. On a fait ensemble donc ce disque autour de Schubert, des leaders avec orchestre. Et puis, on a tout récemment créé le premier enregistrement du dernier oratorio de Gounod qui s'appelle Saint-François d'Assise, dans lequel Stanislas chante Saint-François. Et magnifiquement, d'ailleurs. Ça lui va très, très bien, cette musique française. Et puis, on a un projet assez excitant. D'ailleurs, c'est avec la compagnie 1420, avec Raphaël Navarro, qui était là il y a quelques temps. du Freischütz, où il va faire une prise de rôle, comme on dit, avec ce jeune Max, qui est le grand héros de Freischütz. Et on doit faire aussi un enregistrement pour Warner de Freischütz, je crois, un des premiers sur instrument d'époque.
Et bien, on peut déjà parler d'une fidélité à, tout à fait, notre chef d'orchestre.
Ouais, ça compte dans la vie d'un chanteur d'avoir...
Pour quelle raison?
Bon, c'est assez bateau ce que je vais dire, mais quand même, nous les chanteurs lyriques, on est tout le temps tout seul en fait, hein, on mène une vie un peu étrange. Et c'est vrai que d'être fidélisé comme ça dans des maisons d'opéra ou avec des ensembles, des orchestres, bah, ça compte parce qu'on se sent moins seul, on se sent accueilli, on sait à qui on a affaire. Il y a une appréhension qui est différente quand on sait avec qui on va travailler. Et ça compte aussi parce qu'on a plus confiance, tout simplement.
J'avais jamais réalisé que la vie d'un chanteur lyrique ou d'une chanteuse lyrique, c'était une forme de solitude.
Ah, complètement, oui. Bon, tous les chanteurs lyriques ne le vivent pas de la même façon, mais moi qui ai une femme, deux enfants, c'est vrai que bah, je suis quand même 9 à 10 mois de l'année pas chez moi, quoi. Parce que on voyage, parce que...
C'est
voilà,
énorme.
Les productions lyriques, ça prend du temps. Maintenant, c'est un mois de répétition. Après, les représentations sont étalées sur un mois, 3 semaines. Donc voilà, on part à chaque fois pour 2 mois, et puis les choses s'enchaînent, et puis voilà.
Mais c'est un sacrifice.
Ouais, quelque part, ouais. Donc c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure de l'importance de travailler avec des gens qu'on aime, des gens qu'on connaît, des metteurs en scène qui nous proposent quelque chose, c'est absolument nécessaire pour la part de sacrifice soit compensée par une nourriture artistique intéressante.
Est-ce que vous cherchez des familles ?
Non, je dirais pas jusque-là, parce que ma famille, c'est ma famille. Mmh. Mais je cherche, on va dire, une sérénité dans le travail, parce que c'est très stressant, hein, un artiste qui se pointe comme ça dans une ville en Europe et qui fait sa première musicale devant un chef qui ne connaît pas. C'est de suite un jugement aussi, parce que on est engagé parfois par des gens qui nous ont jamais entendus. Donc il faut refaire ses preuves. Voilà, Laurent, c'est aussi de la discussion qui est intéressante, parce que elle a une écoute, il y a une construction de carrière, puisque moi je suis quand même en train de démarrer les choses, de dire ben voilà, dans quelques années, est-ce que ça te dirait de faire ça, c'est d'avoir des idées, de te dire ben oui, ça c'est une excellente idée, ou ça c'est trop tôt, ou ça, être fidélisé dans un théâtre, c'est un peu aussi le cas avec l'Opéra de Paris, puisque moi j'y ai fait mes études, donc c'est formidable de pouvoir construire quelque chose dans des maisons comme ça aussi.
Ce qui me touche aussi, c'est cette impression de solitude. C'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir 2 ensembles, donc une seule orchestra et Accentus. Donc, je suis souvent à domicile, mais je suis aussi chef invité. Et c'est vrai qu'on a des grands moments de solitude. D'abord, quand on arrive à un orchestre qu'on connaît pas du tout, la première demi-heure, pour vous, vous êtes scruté sur tous les angles par les musiciens, c'est juste atroce. Et puis, eux, c'est dans une forme de routine de série, ces orchestres permanents. Donc, de toute façon, un chef ou l'autre, etc. Tandis que vous, ça fait un an et demi que vous êtes sur le projet, etc. Enfin, il y a une forme d'implication qui est pas la même, ce qui est normal. Et du coup, c'est vrai que c'est assez austère. Et ce qui explique aussi mon petit chien, parce que je l'amène souvent avec moi.
Oui, vous avez une petite chienne de 6-7 ans.
Et ben, en fait,
elle
ça
est pas ça, là. Ça,
non, non, parce que maintenant, elle a sa doxiteur et tout ça, mais souvent, quand...
Sa doxiteur.
Je vais à Copenhague, je l'amène, et ça, mais c'est vrai qu'il y a une forme vraiment de solitude. Et c'est vrai qu'on a besoin, en tout cas, d'être dans un environnement familier. C'est vrai que ça aide beaucoup tout d'un coup d'avoir une famille d'artistes, ce qu'on essaye un peu de constituer avec David Bobet sur la Noine Sanglante. Ça apporte beaucoup de paix, parce qu'on est, c'est vrai qu'on est beaucoup dans le stress et dans le doute. On parlait du doute
tout
à l'heure.
Chef d'orchestre, c'est aussi bichonner ses musiciens.
Ah, oui.
On a envie d'être gentil avec Stanislas quand on entend comme ça. Vous devez avoir cette envie.
Moi j'adore jouer à domicile, notamment là, que ce soit à la Philharmonie de Paris, soit à la scène musicale, avec mes équipes que j'aime beaucoup. J'adore être en production à domicile, franchement, c'est ce que je préfère même. Mais ça n'empêche qu'il faut ces chemins de traverse. Et c'est vrai que travailler avec des chanteurs qu'on connaît, c'est très très appréciable, parce que notamment les chanteurs, là on sait, parce que par exemple on a un chanteur malade là pour une représentation et c'est tout à fait la panique, etc. Donc quand on sait aussi ce qu'un chanteur peut donner, on est tout à fait rassuré.
Qu'est-ce qu'on pourrait écouter de votre disque Schubert, Stanislas, Laurence Équilibé? Qu'est-ce que vous voulez écouter? Allez, faites-vous plaisir.
Non, mais moi je suis pas objective. Bon, celui que je préfère, c'est le Du bis des roues, Tu es la paix. C'est d'ailleurs, je l'ai mis en dernier sur l'album, et c'est orchestré par Anton Webern, très très finement.
Voilà. Bon choix.
C'est un bon choix, mais on va l'écouter. Je vais saluer Claire Chazal.
Merci
d'être venu.
De votre accueil.
Je rappelle que
merci,
Puisque tout passe, c'est une réalité, mais c'est aussi un livre de Claire Chazal chez Grasset.
Porté un verre d'Apollinaire.
et accessoirement un verre d'Apollinaire. Portez-vous bien alors.
Merci infiniment.
Elle sait écouter, elle sait ce qu'elle veut, elle sait qu'elle l'aura, et c'est une façon très pédagogique de... Non, puis c'est quelqu'un de très attachant, qui a ses doutes, c'est pas quelqu'un qui dégage une force de bulldozer, c'est justement quelqu'un qui a cette sensibilité des doutes, du doute et de la recherche, et c'est une personne qui m'est attachante.
Stanislas de Barberac, vous entendez une consoeur, hein, ouais. La grande soprano Sandrine Piau, qui travaille régulièrement aussi dans la famille de Laurence Equilmé. Ouais, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit là ?
Bah, je suis assez d'accord, c'est vrai que comment décrire Laurence ? C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'attitude sereine devant l'orchestre, devant les chanteurs, qui est très importante pour les chanteurs. Parce que il y a une grande précision, il y a un travail en amont. C'est une chef qui arrive, qui est prête, qui a travaillé ses partitions, qui connaît aussi la dramaturgie des choses. Donc c'est intéressant parce que ça permet aussi de donner des couleurs au travail musical, à l'orchestre, etc. Parce que c'est pas juste un travail métronomique et juste savoir décrire des couleurs avec un instrumentarium de temps en temps. Il y a une discussion. En plus, le travail Schubert était vraiment passionnant. J'ai vraiment hâte de commencer le travail avec le Freischütz parce que c'est vraiment une partition incroyable. Et surtout qu'il y a tout un univers dramatique qui est super. Donc je pense que voilà, ça va être un beau travail et je suis content de faire partie de la famille.
Laurence Equilmé, quand on vient vous interviewer chez vous, il y a une grande table avec plein de piles. Toutes ces piles, ce sont vos projets. Et on peut vous surprendre debout en train de travailler, c'est-à-dire en train de lire une partition. Ça, c'est un moment essentiel. La chef d'orchestre devant sa partition, en train de l'apprivoiser et de se dire « qu'est-ce que je peux mettre là comme couleur ? Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là » J'imagine.
Non, en fait, c'est une pile par table. Hein. J'adore les tables.
Ah oui.
D'ailleurs, à l'Opéra Comique, chaque fois, il me dit on te laisse ta table ? Je dis oui, vous me laissez ma table. C'est un de mes meubles préférés. Non, mais c'est vrai, parce qu'on y passe beaucoup d'heures, en fait. Et notamment la période estivale, où on prépare toute la saison qui va arriver. Donc, on passe des heures à la table et aussi des heures au clavier. Souvent, j'ai entendu Boulez dire qu'il passait aussi, lui qui était Onde Martenot, il jouait de l'Onde Martenot. Il passait des heures aussi à réduire les partitions au clavier, et ça c'est important pour avoir cette sensation aussi de la musique physiquement. C'est pas que intellectuel sur une table, quoi. Mais c'est vrai que c'est une partie de la vie aussi qui a une forme d'austérité. Hein. Donc comme Stanislas parlait aussi de compensation, c'est un épisode que j'aime beaucoup, mais en fait, j'aime beaucoup aussi la réalisation avec tout le monde. C'est ça que je préfère faire, en fait. J'aime bien étudier. Hein. Il faut ça, beaucoup étudier. Peut-être que s'il y a des auditeurs qui ont envie d'être chef d'orchestre, d'abord, en préambule, il faut aimer étudier. Voilà,
parce que combien d'années pour devenir chef ? C'est possible de répondre à cette question ?
Oui, bah, je pense une quinzaine d'années, oui. Et puis après, il faut être... On parlait de chemin de carrière. Il y a un chef d'orchestre que j'aime beaucoup qui s'appelait Carl Maria Giulini. Il disait... Il faut mieux que les choses vous arrivent 5 ans plus tard que 5 minutes trop tôt. Parfois, on peut piaffer, on parlait d'impatience tout à l'heure. Mais c'est vrai que cette question de le bon projet au bon moment, cette forme d'alignement des planètes, c'est très important. Vous pouvez tout à fait être dans une forme d'échec parce que vous avez fait quelque chose trop tôt.
David Bobet, ça fait 2 ans que vous travaillez à cet opéra, cette résurrection de la nonne sanglante de Gounod à l'Opéra Comique qui a lieu en ce moment à Paris. Vous avez observé Laurence Equilmé en train de diriger. Comment elle dirige ?
Précisément, avec bienveillance, avec attention, dans le respect aussi de la créativité des uns et des autres, j'ai le sentiment. Mais ce qui m'intéressait dans le témoignage juste avant, c'est...
De Sandrine Piau, oui.
C'est l'image que l'on peut avoir de Laurence. Avant de la rencontrer, on me disait, tu vas voir, il paraît qu'elle est pas facile.
Oui, elle est froide, on dit.
Et c'est quand même terrifiant, quand même, de se dire que Une femme qui pose quelque chose au monde, qui affirme son territoire, devient comme une espèce de menace.
Moi, je pense qu'aussi, vous avez une autorité naturelle. C'est peut-être aussi pour ça qu'on dit ça, non, Laurence Equilbet?
Je suis exigeante, mais comme j'aime beaucoup les artistes qu'ils sont, et du coup, je travaille avec des artistes très exigeants. D'ailleurs, Stanislas et David le sont. Et j'aime beaucoup les artistes qui proposent. Parce qu'on part de ces propositions. Après, on discute. Après, c'est un peu de la diplomatie. Si, par exemple, vous vous tenez à une virgule et que vous dites, bon, est-ce qu'on peut essayer cette virgule? Tu crois pas qu'on pourrait faire cette virgule? Qu'est-ce que t'en penses? Etc. Mais c'est tout un art de la conversation, de la diplomatie. Vous pouvez jamais imposer quelque chose à quelqu'un. Mmh. Et d'ailleurs, un chanteur, moi, je suis très intéressée par son tempo. Il y a une anecdote avec Arnon Cour, par exemple, qui m'a frappée un jour quand j'étais étudiante à Vienne. Il donne un départ à des musiciens. Un des musiciens part deux fois plus vite. Alors il s'arrête, il dit « Ah bon ? Vous auriez senti ça comme ça ? Ça m'intéresse beaucoup. » Bon, on va faire après, il dit « On va faire comme je veux, je pense. » Mais il a discuté pendant quelques minutes avec ce musicien. Ça, c'est tout à fait intéressant.
Donc vous avez peut-être appris la diplomatie au fur et à mesure de votre carrière.
En tout cas, c'est beaucoup plus intéressant comme chemin que l'autocratie, ça c'est certain.
La frondeuse a mis un petit peu d'eau dans son vin.
Tout à fait, voilà. J'ai mis beaucoup de vin dans mon eau.
Merci pour votre grand atelier. Joyeux, Laurence Equilbet.
Merci, cher Vincent Josse.